ATSA tient à souligner que le projet Cuisine ton quartier a été enregistré sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles le projet est installé font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse.
Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine au teu bairro.
Cuisine dans quartier avec nous.
Et tabac haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent, pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Ouais. On est bonne?
Ouais.
Hein?
Ouais.
Oui, toi Ruffine, juicy.
Exact.
Je te trouve vraiment particulièrement bonne.
Merci.
Parce que ça m'impressionne, tout ton parcours. Et maintenant, t'es stagiaire suite à tes études de droit.
Ouais.
Et puis, tu vas être avocate sous peu, tu vas faire ton serment sous peu, là.
Normalement, oui, parce que j'attends mes résultats d'ici la mi-mai.
D'accord.
Et je devrais prêter serment en juin.
Wow! Ça va être un bel aboutissement, hein?
Très, très. Je crois que c'est l'aboutissement de toute une grosse vie, parce qu'être avocate bilingue au Manitoba, ça court pas beaucoup les rues. Et je crois que je suis très fière de ce parcours-là et d'avoir embrassé ce chemin-là aussi.
Oui. Est-ce que c'était ça que tu voulais faire quand tu es arrivée ici?
Au départ, quand je suis venue, oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, quand je suis venue faire la visite exploratoire ici, j'ai rencontré un avocat et qui m'a orientée, qui m'a dit comment il fallait faire. Quand je suis revenue, il y a Brigitte qui m'a demandé de rencontrer d'autres personnes. Elle m'a donné la liste de tous les avocats de Manitoba. J'ai contacté quelques-uns, mais bon, après, il y a eu quelques petits soucis. Mon conjoint a eu quelques soucis de santé, donc il a fallu que je me réadapte. Du coup, je suis allée à l'université prendre l'équivalent d'un master en ressources humaines. Mais comme je savais que j'étais venue ici pour faire mon droit, que j'ai fait chez moi avant à l'université, dès que j'ai fini avec les ressources humaines et qu'il a retrouvé sa santé, j'ai dit, ben bon, je repars à mon amour. Et là, j'y suis.
Puis, tu étais déjà avocate au Cameroun?
J'ai pas été au barreau au Cameroun, mais j'avais mon diplôme de droit qui est reconnu ici au Canada. Donc, chez moi au Cameroun, on fait civil and common law. Et puis, quand je suis venue ici, ils m'ont évalué. Ils m'ont dit, OK, tu prends ces matières-là et puis tu es qualifiée pour exercer le droit ici. Au départ, j'ai eu un gros souci parce que quand je suis venue, ma première langue, c'est le français. Et quand je viens ici, tout le monde me confirme que c'est une province bilingue. Donc, j'ai dit, OK, c'est bon, je vais m'installer là et je vais prendre mes examens dans la langue de mon choix. Quand j'arrive ici, je m'inscris et je demande à la Société du barreau du Canada. Je dis, je vais prendre mes examens en français. Ils me disent, désolé, on n'a aucun document en français. On peut à la limite traduire les examens en français. Je les remercie parce qu'ils ont traduit quelques examens en français, mais malheureusement, ils n'ont pas tout traduit en français. Je comprends qu'il y avait peut-être un problème de ressources. Mais bon, j'étais préparée à prendre les examens en anglais, heureusement, parce que chaque examen, j'étais préparée à le prendre, justement parce que je voulais éviter cette mauvaise surprise. J'avais parlé à 2-3 francophones qui étaient passés avant moi et qui m'ont dit, il ne faut pas beaucoup rêver, parce que nous, on n'a jamais vu un examen en français. J'ai dit, OK, je leur ai écrit. Ils m'ont dit qu'ils vont le faire. Je leur fais confiance. Mais heureusement que je n'ai pas fait confiance à 100%. Parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais fait confiance à 100%. Malheureusement, c'est ça la réalité sur le terrain.
Et puis peut-être que ce balado va informer les gens de ça. Donc quand on arrive ici...
Je le souhaite vraiment.
Mm-hmm. Donc c'est ça... On se leurre pas, on vit ici davantage en anglais, évidemment, c'est la langue de la majorité. Et le bilinguisme, il est un peu à sens unique, c'est-à-dire les francophones sont bilingues, les anglophones, pas
ne
vraiment,
sont pas bilingues.
Pas du tout même.
ils n'ont pas besoin d'être bilingues puisque tout leur est offert. Je veux dire, les francophones ont l'obligation d'être bilingues. Ce n'est pas la même obligation pour les anglophones. Puisque, je prends un exemple simple, le droit. C'est là où on doit appliquer le droit linguistique. Mm-hmm. Mais je vous dis que j'ai écrit à la société qui régule les avocats au Canada. Mm-hmm. Ils m'ont dit qu'ils vont me donner les examens en français. Mais ça n'a pas été le cas sur mm-hmm. le terrain. Mm-hmm. Donc, si l'organisme qui doit nous réguler nos droits ne respecte pas ce qu'ils m'ont dit, où est-ce que je dois aller me plaindre? Mm-hmm. Donc, les francophones, après, on nous oblige à être bilingues. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pareil. L'inverse n'est pas...
Oui. Puis, en tant que minorité, ben, c'est difficile de se faire valoir. C'est toujours un gros combat. Les gens se fatiguent. Hein? Les gens veulent pas passer leur vie à se battre tout le temps. Mais en même temps, c'est important. Il y a tellement de batailles ici qui... Sans ces batailles-là, où en serait le français? Est-ce que vous, Rufine, vous pensez que ça va faire partie de votre pratique de défendre ça?
Exactement, parce que c'est même la raison pour laquelle j'ai écrit à la Société du Barreau au départ pour dire « je vais prendre mes examens en français ». Je savais que je vais les prendre en anglais puisque j'ai aucun livre en français, oui. Mais je voulais au moins leur envoyer le message que « ok, il y a des francophones qui veulent aussi y entrer mm-hmm. ». Mais ils sont bloqués à la porte.
Ouais.
Ils sont bloqués à la porte d'entrée parce que vous ne leur donnez pas cette possibilité. Honnêtement, même dans le monde juridique actuellement, on n'a pas de francophones vraiment dans le monde. Il y a seulement que criards de francophones dans le monde juridique. Mais le problème, c'est à l'entrée. Si à l'entrée, vous ne permettez pas aux francophones d'y mettre les pieds parce que ils n'ont aucune documentation en français. Quand eux, ils demandent que vous leur donnez leurs examens en français, ce n'est pas fait. Donc, si je n'avais pas été préparée à écrire cet examen en anglais, il va de soi que j'aurais échoué et j'aurais abandonné. Donc, je dis, il y a déjà une barrière à la porte d'entrée mm-hmm. qui fait que c'est comme si on veut dire aux francophones, hey, ne venez pas ici, là. Vous n'avez pas de place ici. C'est comme ça que j'ai perçu, personnellement. Mais j'ai dit, ok, je suis une battante, je vais y aller, parce que rester dehors et parler tout le temps, si la porte est fermée, personne ne m'attend. Mais si je suis à l'intérieur et je suis assise à la même table, en ce moment-là, qu'on le veuille ou pas, quelqu'un m'entendra. Donc, c'est pour ça que j'ai forcé, j'ai dit, je vais parler de l'intérieur, parce que quand on envoie le message de l'extérieur, apparemment, ça n'arrive pas. Mais si je suis assise à la table interne...
Vous aurez plus de pouvoir.
Ben oui, je vais t'empêcher de dormir, tu vas
écouter. J'adore!
C'est ça.
Merci, Rufine. Oh my God, quelle femme j'ai devant moi, les amis. C'est formidable. Une battante pour vrai. Là, vous dites que maintenant, vous voulez travailler avec les oubliés de la société, les plus vulnérables, les aider à accéder à leurs droits. Et quand on parle de ces oubliés, de ces vulnérables, parlez-vous des francophones en particulier?
Bien évidemment. Et je fais partie de ceux-là, de ces oubliés de la société. Mm-hmm. Comme je vais revenir toujours sur cet exemple-là.
Ouais.
Quand je dis qu'on me donne mon examen en français et qu'on ne le fait pas, ça veut dire qu'on m'oublie. On me dit, OK, toi, tu es la seule personne sur 1000 à demander. Mm-hmm. Alors, tu ne vaux pas grand-chose. Donc, on me met dans un coin de la maison. On dit, bon, toi, tu attends quand tout le monde aura mangé. On viendra te servir. Et si on n'arrive pas à servir tout le monde, ah ben là, tu restes dans ton coin. Donc, c'est comme ça que j'ai perçu.
Tout à fait.
Et j'ai dit, si on reste dehors, on ne va jamais se faire entendre. On va toujours être oublié au coin de la maison. Personne ne va faire attention à nous. Il faut que nous aussi, on parvienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin que j'ai pu braver. Je dis, un jour, même si ce n'est pas moi, je suis en train de renvoyer le message à d'autres francophones qui viendront après moi, que vous pouvez y accéder, venez vous battre à la table. Mm-hmm. Parce qu'étant à la table, on sera plus écouté qu'on
Absolument.
Le veuille ou pas, on va nous entendre.
Aimeriez-vous ouvrir votre propre bureau?
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est l'objectif.
Donc, vous ouais. allez avoir pignon sur rue, porte ouverte à tous ces oubliés francophones qui n'ont pas accès à un droit à se faire entendre en français par cette société de droit qui
Exactement.
Les oublie.
Exactement.
Merveilleux. Puis, quand vous êtes arrivée, c'était en 2017, c'est ça?
Oui.
Oui. Vers qui vous êtes allée pour vous intégrer, pour vous faire un réseau?
Quand je suis arrivée ici déjà, quand je suis venue pour la visite exploratoire, j'ai été introduite à Accueil francophone. Mm-hmm. Et quand je suis revenue, donc avant de quitter de chez moi, j'ai contacté Accueil francophone. J'ai dit, bah, je viens avec toute ma famille maintenant. Et ils ont été gentils, ils m'ont trouvé un logement. Ils sont venus me prendre à l'aéroport. Ils m'ont accompagnée dans mes démarches administratives. Donc, par exemple, mon numéro d'assurance sociale, Accueil francophone, merci d'ailleurs à eux. Mais ma carte de santé, Accueil francophone. Donc, honnêtement, je vais dire, ils sont là pour accompagner les francophones. Parce que même avant ma visite exploratoire, Brigitte m'avait déjà dit, contacte-les et puis tu vas tout organiser avec eux. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de disponibilité quand je suis venue faire ma visite exploratoire. Mais ils étaient à l'écoute. Donc, ils n'ont pas pu me loger ou m'accompagner, mais ils me disaient, OK, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux faire. Et ça, j'ai dit, ça m'a un peu rassurée parce que je pouvais discuter, même étant chez moi avec quelqu'un en français. Mm-hmm. Je suis sûre qu'on parle de la même chose.
Oui.
Parce que quoi qu'on dise, quand tu arrives ici, tu es obligé d'être bilingue. Mais quand tu es encore chez toi où c'est francophone, francophone, mm-hmm. et qu'on te dit que tu vas dans une province bilingue, honnêtement, s'il n'y avait pas eu cet accueil francophone, je crois que j'aurais beaucoup hésité avant de venir. Mais comme ils étaient là, ils m'ont rassuré que, OK, il y a mm-hmm. quelqu'un qui va parler français et je communique avec quelqu'un que je suis sûre qu'on se comprend, mm-hmm. ça me motive à venir.
Mm-hmm. Vous êtes-vous fait des amis rapidement, des activités, une vie, un réseau?
Je vais dire, je me suis fait des amis rapidement, oui, mais parce que je crois que je m'y suis prise un peu avant. Parce qu'avant de venir, pendant la procédure d'immigration, il y avait un groupe où on discute les gens qui veulent immigrer et on s'est trouvé comme ça. Et après, on dit, OK, moi, j'ai obtenu ma résidence permanente, je vais déménager tel jour. OK, toi, tu vas déménager tel jour, moi, je viens tel jour. Donc, on s'est créé notre réseau francophone à nous et ça s'est élargi, bien évidemment. Donc, après, on a beaucoup de... Il y a Accueil francophone qui, quand vous arrivez, il vous dit, OK, il y a telle association. Par exemple, je suis camerounaise, je viens du Congo. Quand je suis arrivée ici pour la visite exploratoire, on m'a mise en contact avec les Congolais. Et quand je suis revenue pour m'installer, on m'a dit, OK, si tu veux l'association des Camerounais, les voilà. Donc, ça aide toujours de... Même si je n'ai pas la famille ici... Ça fait que, OK, tu as quand même quelqu'un avec qui parler.
Oui, puis retrouver des traditions, des manières de faire. Exactement. La langue, est-ce que tu continues de parler ta langue maternelle?
Je parle ma langue maternelle très rarement, seulement quand je suis en communication avec mes frères et sœurs. Et je vais dire que même avec mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le temps. Parce que quand on veut aller vite, on est obligé d'aller en français.
OK.
Par habitude. Mais bon, de temps en temps, quand j'ai l'occasion, je parle ma langue maternelle.
Ta voix a changé? Tu t'ennuies un peu?
De ma langue maternelle, oui, parce que je crois que ça aurait été, je ne sais pas, une connexion ancestrale. C'est, ouais. c'est mon identité. Mais bon, malheureusement, je vais finir parce que mes enfants ne parlent pas. Mm-hmm. Donc, je sais que ça va disparaître. Mm-hmm. Ça a même presque disparu déjà, puisque je ne parle pas ça avec mes enfants. C'est comme une scission.
Donc, tu peux aussi faire le parallèle de qu'est-ce que ça peut être si c'est le même cas pour les francophones ici. Ça peut peut-être te faire voir un parallèle de qu'est-ce qui pourrait arriver ici avec le français aussi.
Oui, beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai tenu à mettre mes enfants dans l'école francophone. Parce que justement, je veux au moins qu'ils gardent cette petite identité culturelle. Ils ont été élevés en français, ils ont tout fait en français. Mais le plus jeune, j'ai peur qu'il perde la langue parce que tout le temps quand il est avec ses amis,
ça bascule.
Automatiquement, ça bascule. Mais bon, heureusement, en la maison, on garde encore ouais. le français. Mais pour combien de temps lui va garder le français?
À l'adolescence, c'est encore plus difficile.
Mais c'est ça, c'est ça. Mais bon, j'espère qu'il va garder son français, que la société ne va pas lui imposer l'anglais mm-hmm. et qu'il va quand même savoir qu'il y a le français et qu'il va le transmettre également. Mm-hmm.
Puis, les activités que tu fais ici pour t'amuser, pour en dehors là, du travail puis de la famille, ça serait quoi?
J'ai fait un peu de patinage. J'ai fait la boxe. J'ai fait la marche. puis je sors avec des amis, on va dans les restaurants, on va s'amuser quelque part, on va boire un café. Donc, je vais dire que je varie plus ou moins les activités.
Puis, est-ce qu'il y a des activités dont tu t'ennuies de là-bas?
Oui, là-bas, j'aimais beaucoup danser.
OK.
Ici, malheureusement, j'ai pas... Je faisais de la danse un peu professionnelle, mais ici, j'ai pas quelqu'un avec qui danser. OK. Donc,
Dans tes nouveaux amis, là, il n'y a pas vraiment ou d'endroit là, pour danser. Non. Qu'est-ce que tu danses quand tu danses?
Le rock and roll.
OK.
Donc, toutes les danses classiques, le rock and roll, le tango, la valse, salsa.
Mm-hmm.
Ouais. Quand j'étais à l'université, j'ai trouvé des latinos qui dansaient un peu la salsa. Mais bon, après tout le monde est occupé dans la vie, donc...
Si je te demandais, on danse là, qu'est-ce qu'on mettrait comme musique? Tu penses?
Le makossa. Le makossa qui est la musique traditionnelle du Cameroun.
OK. Puis ici, en arrivant au Manitoba, quel genre de musique t'entends le plus souvent? Qu'est-ce que t'entends le plus? Est-ce qu'il y a une radio francophone? Oui, il y a Radio-Canada francophone.
Oui, il y a 93.1 FM là aussi qui parle français. Ouais,
puis est-ce que tu découvres des artistes d'ici francophones? Est-ce que t'entends de la musique d'ici? As-tu des choses que t'aimes, que tu te souviens?
La musicienne que je connais vraiment, c'est Céline Dion, et que j'adore d'ailleurs.
Ouais.
Après, il y a Garou que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il chante plus parce que depuis, j'ai plus suivi de nouveaux morceaux de lui. Donc, malheureusement. Mais voilà les deux chanteurs que, honnêtement, je peux suivre toute la journée, je ne me fatigue pas.
Ah ouais, hein? Est-ce que ça t'arrive ici de venir au Centre culturel franco-manitobain, voir des spectacles, au théâtre, au Cirque Molière, participer à...
La dernière fois que j'y étais, c'était pendant le festival des voyageurs. Là, je suis venue ici voir le violon.
OK.
Je crois que c'était le violon, là. Ouais.
OK. Ouais. Super.
Ça fait pas longtemps. Ouais.
D'accord. Puis, c'est super, ça. Au niveau de la nourriture, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu fais beaucoup de nourriture plus camerounaise, congolaise ou maintenant, comment?
Honnêtement, je ne suis pas une très bonne cuisinière. Donc, de ce côté, je vais dire, je suis ouverte.
OK. Du moment qu'on mange,
ouais. Tout
va bien. Est-ce que c'est le papa qui fait à manger à la maison plus?
On alterne.
Ouais.
Ça dépend de qui est disponible.
D'accord.
Et la personne fait à manger.
Votre petite maison ici, êtes-vous propriétaire, locataire?
Propriétaire.
C'est bien, hein? Ça, vous êtes content de ça? Parce que, tu sais, ça a l'air difficile, l'accès à la propriété quand même. Au Canada, des fois?
Oui. C'est très difficile l'accès, mais bon, on a pu avoir ce petit nid à nous.
Ça aide à s'ancrer, à s'enraciner, hein, quand même. Est-ce que, Rufine, tu te dis, je suis ici pour longtemps, là? Je me sens que j'ai fait ma maison ici.
Normalement, je dirais, vu les objectifs que j'ai de contribuer à la francophonie, je dirais que je suis partie pour longtemps parce que je sais que c'est pas demain que ce combat va être.
Ouais, c'est vrai.
Donc je dirais, je suis vraiment partie pour longtemps et j'ai même beaucoup réfléchi par rapport à ça avant d'acheter la maison parce que je me disais, ok, une fois que tu achètes la maison quelque part, ça veut dire que tu es coincé, si on veut. Donc j'ai beaucoup réfléchi, mais après j'ai dit, ben on n'est pas plus mal ici que ça. C'est vrai qu'on nous oblige à parler l'anglais, mais si tout le monde part. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de francophones. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je suis venue, justement, qui au bout de 3 mois se sont découragés et qui ont dit, OK, on nous avait dit que c'était une province francophone bilingue, mais on se rend compte que... Parce que je vais vous dire qu'il y a même des services ici où quand tu appelles et ils entendent seulement l'accent français, ils te raccrochent au nez. Moi, j'ai vécu ça. J'étais même pas en train de lui parler en français. Mais dès qu'il entend ton accent francophone, c'est bon là, c'est fait. Donc, il y a beaucoup qui sont arrivés qui, malheureusement, n'avaient pas le même niveau d'anglais que moi. Et qui ont, ils se sentent, c'est un peu comme, on se sent discriminé. Et puis, ils ont dit, c'est pas la peine de rester ici. J'ai quitté mon pays. Déjà, j'ai le stress d'avoir abandonné tout. Si c'est pour venir vivre le stress de rejet ici, je préfère aller dans la province où on parle français. Donc, beaucoup de gens viennent. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils sont un peu déçus. Ils se disent, par exemple, pour aller à l'école ici. Moi, je suis repartie à l'école, mais pour étudier uniquement en anglais. Parce que personne ne m'offre ce programme-là en français.
Il n'y a pas tous les programmes, c'est ça.
Et quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là, il va dire, mais moi, je ne prends pas ce risque de payer, je crois que j'ai payé 15 000 $ pour faire ce diplôme-là. Il va dire, je ne vais pas prendre ce risque-là pour échouer parce que je fais un truc qui n'est pas dans ma langue. C'est pareil pour le droit.
Tout à fait.
Donc, si je ne peux pas faire, par exemple, j'ai pris mon examen de barreau la semaine en mi-mars, là. Il n'y a aucune épreuve en français. Et ça, je ne peux même pas leur demander. J'ai demandé à l'organisation fédérale parce que c'est fédéral. Mais le barreau du Manitoba, je ne peux pas leur dire, donnez-moi les... Ils vont dire, mais qu'est-ce qui te prend, là?
Le Congo, pourquoi être partie?
Je suis partie du Congo. Au Congo, je travaillais dans le pétrole. Et à un moment, je me suis dit, OK, moi, j'ai la chance d'entrer dans une société où ça peut me permettre de me nourrir, de prendre soin de ma famille. Mais j'ai aucune garantie que mes enfants vont avoir la même chance. Et étant donné, moi, déjà, je ne suis pas d'origine congolaise, donc j'ai seulement immigré au Congo. J'ai suivi mon époux au Congo, même si arrivé, je me suis plus établie que lui. Mais au départ, c'est lui que je suis pour aller au Congo. Quand j'arrive au Congo, je trouve du travail, je m'épanouis, je dis OK, je vais rester ici. Mais après, quand je vois les perspectives d'avenir, je dis mes enfants n'auront pas beaucoup de chance ici. Peut-être j'ai eu plus de chance, mais je vais me rassurer que je leur donne les mêmes chances dans la vie. Donc, je préfère aller quelque part où ils sont presque garantis que s'ils étudient quelque chose, ils peuvent travailler dans ce domaine.
Il y a beaucoup de chômage au Congo?
Oui. Oui.
Puis la perspective des conflits?
Oui, les conflits tout le temps. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer parce que même la période où je suis partie, ça, on rapprochait des élections présidentielles. Et les élections présidentielles, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, si tu peux te mettre à l'abri avant les élections, c'est toujours conseillé. Après, j'ai dit, OK, on ne va pas vivre comme ça parce que tu ne peux pas te coucher et dormir parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer dehors. Il y a toujours, on va te parler du coup d'état. On ne sait jamais quand ça va péter, donc.
Donc, oui. Beaucoup d'insécurité, oui. Mais en même temps, c'est un beau pays. Difficile à quitter. Tout le monde ne va pas le quitter non plus. Non. Et quand même, il y a plein de personnes qui restent et qui y vivent.
Oui.
Mais tu as été motivée de partir quand même.
Oui. Je crois que j'ai beaucoup plus été motivée parce que j'avais les enfants. Donc, ça fait une motivation. Pour les enfants, je crois que je serais prête à faire n'importe quoi.
Ouais,
je peux sauter dans la mer si ça me garantit que les enfants, ça va leur assurer un avenir. Après, bon, je sais que tout le monde ne va pas réfléchir comme moi, mais bon, c'est ma philosophie. J'ai dit, beaucoup de gens m'ont dit, n'y va pas. Pourquoi tu vas au Canada? Tu es bien ici. Tu peux aller visiter le Canada quand tu veux. J'avais la chance que j'avais des facilités d'avoir des visas. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais des facilités en Afrique d'avoir les visas. Donc, tout le monde m'a dit, toi, tu n'as pas un problème de visa. Pourquoi tu veux carrément aller t'installer là-bas? La vie est dure, tu vas vivre la neige. Même quand je suis venue ici, on m'a averti qu'il y a la neige. Est-ce que tu es consciente de ça? On va atteindre des températures extrêmes. J'ai dit, OK, s'il y a des gens qui ont survécu, je ne suis pas super humain. Donc, si ceux-là ont pu survivre en tant qu'être humain, ça veut dire que je peux survivre aussi. Donc, après, j'ai dit, j'y vais. Mais je n'ai pas de regrets. Si c'était à refaire, je le referais.
OK, cool. Mais c'était ma prochaine question, donc je suis contente d'entendre ça. Puis en plus, ben, tu vas avoir une belle carrière super utile qui va vraiment aider beaucoup de monde. Tu le vois déjà que tu remplis, il y a un manque à combler, là. Alors,
le manque électrique, il y a. Il y a une société qui m'a abordé déjà pour aider les francophones. Et je suis même très, très contente pour ça, parce que, après tout, si je peux faire quelque chose pour les francophones, ou bien pour motiver d'autres francophones à venir, parce que j'ai dit, si j'ai un succès ici, ce n'est pas vraiment personnel. Parce que si j'ai un succès, ça veut dire que je vais renvoyer un message, même à ceux qui sont partis, que peut-être si vous étiez restés, peut-être qu'on serait ici ensemble. Donc, mon objectif premier, c'est vraiment renvoyer ce message aux gens, que même si de l'extérieur, c'est difficile de vivre ici sans parler l'anglais, si on est nombreux, on peut défendre nos droits. Mais si une personne seule doit aller devant et dire que, OK, moi, je parle français, il va de soi que le gouvernement ne va pas mettre autant de moyens pour une personne ou deux. Mais plus on est nombreux, mieux ça vaut, parce qu'ils vont voir que, OK, on est en train d'investir, mais il y a une rentabilité. Ce n'est pas un investissement perdu. On ne jette pas de l'argent. Donc, s'il y a une rentabilité, si on voit, par exemple, qu'on peut se travailler en français ici et qu'il y a des gens qui demandent à être servis en français, ça va motiver le gouvernement. Mm-hmm.
Puis on voit que tu vas être une inspiration parce que, bon, il y a toute cette cause du français, mais comme femme noire, tu sais, tu brises des... tu ouvres des portes, là, à d'autres niveaux aussi. Hein?
Ouais. Ça, c'est vraiment le... parce que il va de soi que dans toutes les sociétés du monde, les femmes sont un peu marginalisées. Et cette profession d'avocat a été longtemps masculinisée. Et je vais dire même maintenant, un avocat homme va penser qu'il a tous les droits d'être avocat, alors qu'une avocate femme, ils vont toujours penser que... mais, c'est à la limite, si on ne te dit pas que mais, tu t'es trompé du chemin, là.
Oui, puis on voudrait que tu sois à salaire égal, hein, aussi, ouais. Entre autres.
Donc, si je peux donner des renvoyer l'image aux petites filles que vous pouvez rêver gros, et surtout aux petites filles noires, alors là, je crois que j'aurais réussi un gros pari. Parce qu'à la fin de la journée, on se demande, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui a aidé quelqu'un dans sa vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour marquer quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut parler positivement de moi? Donc, si je peux faire ça, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une petite fille, j'ai dit, j'aurais fait beaucoup de choses. Et si je peux lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle... il y a une déjà que je suis en train de motiver actuellement. Je lui dis, faut venir. Donc, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle va finir par rejoindre, parce que je vois qu'elle a toutes les potentialités de persévérer dans ce métier-là. Mais bon, après, si je peux motiver 2-3 filles...
Oui, puis motiver des garçons au respect, puis à l'égalité des chances. Toi, tu as des garçons, filles?
J'ai que des garçons.
C'est ça, non, mais ils vont voir leur maman, hein, faire ce beau parcours et tu sais, c'est le respect qui gagne aussi à tous les niveaux, là, c'est formidable.
Oui, et puis quand je vois beaucoup de sociétés, c'est la femme qui est privée de ses droits. Donc, mon but premier aussi, c'est dire aux femmes qu'il y a quelqu'un qui est de votre côté. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, on va voir les avocats, mais c'est des avocats hommes. Donc, du coup, quand je lui raconte l'histoire, il voit ça de la perspective d'un homme. C'est pas qu'il veut être contre moi, mais il voit ça dans la perspective d'un homme. OK, généralement, par exemple, chez moi, si je vais me plaindre chez un homme que mon mari m'a, par exemple, je vais prendre un exemple extrême. Si je vais, par exemple, dire, OK, mon mari n'a pas donné l'argent de la ration, on va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il ne donne pas? Donc, la faute, c'est moi. S'il n'a pas donné, c'est parce que j'ai fait quelque chose.
Ça, tu parles au Congo ou tu parles ici, que tu vois que c'est ici comme ça?
Mais je veux dire, dans toutes les sociétés, les hommes généralement ont tendance à penser que les femmes sont là pour les servir.
Se plaindre, être... oui, d'accord, voilà. Et ça, ouais.
Si je prends un exemple, peut-être, si vous allez dans une grosse structure, dès qu'on voit la femme, on a tendance à penser que c'est la réceptionniste. Mm-hmm. Ouais. Tout le monde, c'est la société qui nous a conçus comme ça.
Ouais.
Donc, généralement, vous allez voir j'ai travaillé dans une société, moi, donc les gens vont vite venir, surtout si je suis noire. Alors là, c'est la balayeuse. Donc, les gens vont venir pour dire « Oui, où se trouvent les toilettes ?» Mais bon, si, pourtant, s'il y a un homme qui est réceptionniste, même s'il dit de sa propre bouche, personne ne va le croire. Donc, la société a tendance à dire que, ok, parce que tu es femme, parce que tu es noire, parce que, ok, on te met dans cette case-là. Parce que, on te met dans cette case-là. Non. Je crois qu'il est temps qu'on brise ces tabous. Et j'ai dit, si je réussis à être avocate, les gens vont voir que, ok, il peut y avoir une femme qui est noire, qui parle français, mais qui porte aussi ce. Donc, la je crois que ça va changer un peu les.
Les perceptions. Oui, ouais, ouais. Tout à fait. Ça fait avancer cette cause importante. Est-ce que, parlant de cause importante, tu as eu l'occasion de réfléchir à la cause des Premières Nations ici?
Ça, j'ai réfléchi parce que je crois qu'ils ont vécu. Moi, je viens d'une tribu au Cameroun qui s'appelle les Bamileke. Et les Bamileke, jusqu'aujourd'hui au Cameroun, c'est la race à détruire. Ils ont toujours été persécutés. Il y a eu un génocide contre les Bamileke au Cameroun. Et je vais dire que même aujourd'hui, en tant que Bamileke chez moi, même si je suis allée au Congo, c'est pas parce que je n'avais pas les diplômes. Mais j'ai les diplômes, mais je ne peux pas travailler exactement comme les Premières Nations. Si je vais postuler quelque part, on va me dire, tu es de quelle tribu? Je suis Bamileke. Ok, tu n'es pas la bienvenue ici. Fous le camp. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous écrivez Bamileke, vous allez voir que je crois que je préfère être Première Nation ici que Bamileke au Cameroun. Ils sont traités exactement de la même façon. Mais j'ai été un peu choquée ici parce que de l'autre côté, on se dit que ce côté, c'est des sociétés développées, plus ou moins. Mais quand j'arrive ici, une fois, quand j'étais à l'université de Winnipeg, on a fait venir quelqu'un pour justement nous éduquer sur les Premières Nations. Et quand on me montre une vidéo où il y a une dame des Premières Nations qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau courante à la maison, j'ai été choquée. Et ce jour-là, en classe, je leur ai dit, mais nous, on quitte nos sociétés pour venir ici parce qu'on pense qu'ici, on prend soin des gens. Mais si on arrive ici, ça, ce sont les propriétaires terriens. Ce sont leurs terres. Mais si on les traite de cette façon, on nous amène à nous demander si on n'a pas fait le mauvais choix. Dans quelle société on se trouve? Donc, je dis, si j'ai la possibilité de contribuer, ce sera une cause personnelle parce que eux, pour moi, eux, ils vont penser qu'ils sont Première Nation, mais pour moi, ce sera des Bamileke. Donc, je m'identifie pleinement à eux. Parce qu'on vit exactement la même chose.
Merci. Merci. C'est fort, tout cet éveil, toute cette reconnaissance, toutes ces mains tendues, ces regards qui se comprennent. Toute cette souffrance-là, quand même, elle fait écho, puis que ça devient pas juste plus en plus mal compris, mais au contraire, peut-être plus en plus compris, on va l'espérer.
Oui, mais je crois que c'est ceux qui ont écrit l'histoire ont renversé à leur intérêt.
Absolument.
Parce qu'on les a présentés comme les mauvais, c'est eux qu'il faut chasser, mais au fond, c'est chez eux.
Mais oui.
Quand je suis arrivée ici, si vous arrivez ici la première fois, on va vous dire, faut faire attention à... C'est ce que la société vous présente. Mais en restant sur place et en lisant un peu l'histoire, j'ai lu un peu l'histoire des traités avec les Premières Nations, j'ai lu la Constitution, en visitant le musée, on se dit, mais ces personnes-là, on les présente comme les mauvais, mais au fond, c'est la société qui les a rendus comme ça. Parce que qu'on vienne trouver quelqu'un sur son terrain, il a son mode de vie. Et que sous prétexte de civilisation, on lui arrache ses enfants. Si on m'avait arraché mon enfant, dans quel état serais-je? Donc, si je réfléchis comme ça, je dis, mais ce ne sont pas ces personnes qui sont mauvaises, c'est ce que la société leur a fait.
Oui, puis il faut réfléchir à l'Église là-dedans. dans le sens qu'il y a quand même une volonté de coloniser par la foi et de dire que l'Église avait la vérité de la connaissance de Dieu et puis que c'est celle-là qu'il faut inculquer à tout le monde et donc faire perdre les rituels, les croyances de d'autres peuples. C'est quand même délicat. Des fois, de penser à ça, mais en même temps, ben, tu sais, il y a l'Église puis il y a Dieu. On peut se dire que c'est qu'on peut avoir une perception. Il y a les êtres humains qui ont utilisé l'Église Dieu, ou une parole de Dieu pour faire du mal et avoir du pouvoir. Mais quand même, quand on pense à ça ici et qu'on va à l'Église, là, comment on se sent?
Je vais dire. Honnêtement, c'est le même système qui s'est passé chez les Bamiléké. Ils étaient à exterminer parce qu'ils ont opposé, ils ont osé s'opposer aux colons. Donc, le colon est venu avec sa religion. Ils ont dit, nous, on n'abandonne pas notre religion. Jusqu'aujourd'hui, moi, je crois à la religion de mes ancêtres. Même si parallèlement, le colon nous a imposé la religion pour nous coloniser, ils ont dit justement que nous, on ne veut pas de ça. Et c'est pour ça qu'il fallait les exterminer. Donc, c'est exactement la même histoire. Mm-hmm. Il fallait les exterminer parce qu'on estimait qu'ils vont entêter les autres. Donc, si on ne les extermine pas, les autres vont penser qu'ils peuvent s'opposer à nous et tous vont se mettre ensemble. Donc, le colon a dit, il faut tuer cette race-là. Ils doivent plus exister. Mais bon, heureusement, ils avaient des mécanismes aussi pour se défendre. Peut-être les Premières Nations n'ont pas eu la même chance parce qu'on a quand même enlevé leurs enfants. Mais j'ai dit, après, quand tu penses à ça et tu vas à l'église, j'ai dit, parfois, il faut apprendre à oublier le passé. Pas oublier dans le sens qu'on oublie ce qui s'est passé, dans le sens de pardonner à ceux qui l'ont fait et avancer. Sinon, si on reste dessus, j'ai dit, on va rester là à pleurnicher.
D'où d'aller au pape et de demander des excuses pour peut-être renouveler la manière de vivre sa foi pour ceux qui sont catholiques, par exemple.
Oui. Et voir même déjà que quelqu'un reconnaît. On dit en français que une faute avouée est à moitié pardonnée.
Oui, mais là, en tout cas, je pense que je ne sais même pas.
Parce que j'ai dit, si on ne pardonne pas,
non, c'est à soi qu'on
vit sur des ressentiments et ça nous détruit de l'intérieur. Nous, en tant que.
Mais pardonner, mais ne pas oublier.
Excuse-moi. Ne pas oublier, non. Non, quand je dis l'oubli, c'est le pardon. Ce n'est pas oublier, fermer la page de ce qui s'est passé. Non. Moi, je suis Bamiléké. J'enseigne à mes enfants ce qu'on a fait au Bamiléké. Et j'espère qu'ils l'enseigneront à leurs enfants. Ce n'est pas parce que j'ai pas de ressentiment. Mais je dis. Ça, c'est l'histoire. On ne va pas oublier. On a pardonné, on a avancé, ça nous a aidé à avancer. Nos parents ont dit, nos grands-parents ont dit, OK, même si ces gens-là nous ont fait ça, cohabitons avec eux et on voit comment on va avancer avec. Et ça nous a permis, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Si ma mère ou mon grand-père ou mon arrière-grand-père étaient restés sur des ressentiments, il allait rester là à dire, OK, j'avance pas, je vais tuer l'ennemi. Et il ne va jamais avancer. Et peut-être que je n'aurais même pas existé. Donc, à un moment, j'ai dit, OK, ils ont fait ça. Mais est-ce que celui qui est en face de moi aujourd'hui, par exemple au Cameroun, je dis, les Bamiléké sont détestés. Mais ce n'est pas pour autant que si je vois quelqu'un d'une autre tribu, je vais me mettre à me bagarrer contre cette personne n'a rien fait. C'est l'histoire de nos arrière-grands-parents. Nous, on ne va pas porter ça sur le dos. Non, ça va m'empêcher, moi, de vivre. Alors, pour que je ne m'empêche pas de vivre.
Il ne faut pas empêcher ta propre émancipation.
Voilà, je dis voilà l'histoire. Je connais mon histoire, je porte mon histoire sur mon dos, mais il ne faut pas que ce soit un fardeau qui m'empêche d'avancer.
Puis de cette, ta parole, je pense, peut se joindre à la parole des Premières Nations à ce niveau-là. Puis. Est-ce que tu as une communauté d'église, toi, avec où tu vas ou où tu pratiques? Est-ce que ça, c'est aidant pour toi, la foi?
Moi, je suis catholique par mes parents.
D'allégeance, on dit. Non? Ouais, c'est ça? Mais
ouais,
pas pratiquante.
Catholique, oui.
C'est ça.
De temps en temps, je vais aller à l'église, Mais je vais dire, ce n'est pas ma priorité. Mm-hmm. Mais ce n'est pas que j'ai quelque chose contre l'Église. Mais non.
Non, non, je comprends.
Je respecte tous ceux qui croient, je respecte leur foi. Si tout de suite, là, Annie me dit, OK, donne-moi 5 minutes, je vais prier. Parfait. Mm-hmm. Je n'ai pas de souci à ça. Et je ne suis pas offensée par ça. Franchement, je respecte la religion de tout le monde. Je dis, j'ai 2 religions. Je crois en l'Église catholique parce que mes parents ont dit, voilà comment ça se passe. Je crois en mes ancêtres parce que mes parents aussi m'ont dit, voilà comment ça se passe.
Alors, intégrer les deux. Puis, mais sans être pratiquant, mais c'est comme en toi, au niveau des valeurs aussi. Puis qu'est-ce que vous faites par rapport à votre, quand tu parles de la religion de tes ancêtres, c'est quoi comme par exemple des choses que...
Ah ben, c'est des choses que je ne suis pas sûre que...
Que je comprendrais.
Oui, parce que c'est un peu trop complexe.
Okay.
Par exemple, j'ai perdu mon père et ma mère. Mais si je te dis qu'ici au Canada, je ne peux pas prendre une décision, une vraie décision, sans que ma mère n'ait approuvé, ça va sonner bizarre dans ta tête. Mais je dis, même maintenant, là, pour que je prenne une vraie décision de ma vie, il faut que ce soit approuvé par ma mère. Mais tu vas me demander, ah oui, mais comment?
Mais comment, à l'intérieur de toi?
J'ai ma façon.
Okay.
Je sais si elle a approuvé ou si elle n'a pas approuvé.
Tu le ressens?
Ouais. Mais par contre, si je t'explique ça, tu vas dire, ah ben non, elle est morte il y a 15, 20 ans. Arrête ça. Mais non.
Non, je ne dirais pas ça, je te jure.
Mais non, donc, du coup, il y a cette connexion que j'ai avec mes ancêtres.
Mm-hmm.
Mais ils m'ont dit, OK, en même temps, on a cette connexion-là. En même temps, le colon était venu dire que voilà comment on va prier. Ils ne veulent pas que nous, on ait cette connexion avec nos ancêtres. Mais nous, pour rester en vie, on a fait qu'on doit connaître leur, faire ce qu'ils veulent. Mais le soir, on vient, on fait ce qu'on connaît faire.
Puis tes enfants, comment tu vas leur transmettre ça?
À mes enfants?
Ouais, de ressentir... comment les ancêtres penseraient et est-ce qu'ils sont en accord avec toi?
Le problème, c'est parce que de la même façon que je dis, toute la décision que je vais prendre, il faut que je discute avec ma mère. Un frère avec qui je suis née, de la même maman et du même papa, ne va pas agir de la même façon. Après, je dis, tout c'est, comment tu crois à l'intérieur? Donc, c'est cette connexion que j'ai eue avec ma mère. Par exemple, quand je vais discuter avec un de mes frères, il va me dire, oh ben, tu sais, depuis que maman est morte, moi, je ne l'ai jamais vue. Je vais lui dire, mais moi, j'ai vu maman. Moi, j'ai un grand frère. Sa femme était enceinte. Je ne savais pas. Elle ne m'avait pas dit. La nuit, ma mère me dit, ton frère va avoir un enfant. Il faut que tu ailles l'assister. Okay. Quand je me lève le matin, j'appelle sa femme d'abord. Je lui dis, est-ce que tu es enceinte? Elle me dit, oh, mais ton frère t'a déjà dit. Pourtant, on a dit qu'on ne dit pas. Elle dit, c'est ce matin que j'ai fait le test. Et on a dit qu'on attende un peu parce que comme c'est trop tôt, il ne faut pas qu'on dévoile. Voilà, il t'a déjà dit. Bon, j'ai dit, OK, c'est bon. Et puis, j'appelle mon frère. J'ai dit, ta femme est enceinte. Il dit, oh, mais ma femme, là, franchement, elle ne sait pas tenir sa langue. C'est ce matin qu'elle a fait le test.
C'est
et
bon.
On a dit, on ne dit à personne. Mais il y a peut-être, il y a un an que je lui ai dévoilé comment j'ai su que sa femme était enceinte.
L'intuition, donc, qu'on pourrait dire.
Hein? Ouais.
Non, mais je veux dire, c'est vrai, on peut, tu sais, non, mais des intuitions, c'est fort. C'est fort. Et puis, c'est vrai qu'on peut comprendre ça de toutes sortes de façons, puis que je pense que tous les peuples ou toutes les religions ou toutes les... essayent d'expliquer ça, puis que donc ça existe. Ça existe, l'idée de vraiment visualiser, avoir la lucidité de voir des choses... Je me demande, Rufine, si tu aimerais ajouter quelque chose que tu aimerais dire aux gens, quelque chose...
Alors, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est qu'on peut vivre à Winnipeg et parler français. Mais si on ne se bat pas, donc chaque fois que j'appelle un service, je dis, je vais parler en français. Si au bout d'une minute d'attente, je dis, OK, laissez tomber, je vais parler en anglais, ils vont se dire qu'on les embête seulement parce qu'ils vont dire, OK, vous savez bien parler anglais et tout le temps, vous venez nous embêter ici pour dire que vous voulez parler français. Donc, il faut que nous, déjà, qui pratiquons le français, qu'on s'en tienne à ça. Même si je sais parler l'anglais, quand j'appelle un service, je leur dis, je veux un service en français. Ils vont me dire, on va te mettre en attente. J'ai dit, c'est pas grave, mettez-moi en attente. Mais je voudrais parler à quelqu'un qui parle français. Quand j'écris une lettre à une administration, je me rassure que c'est en français. Vous allez trouver quelqu'un qui va la traduire. Ça, c'est pas mon problème. Mais il y a des gens qui parlent français ici et qui voudraient parler français ici et qui aimeraient vivre au Manitoba en parlant leur français. Mm-hmm. Donc, moi, ça, c'est ce que je voudrais dire aux gens. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'on abandonne notre langue parce qu'on veut satisfaire, je ne sais pas, les besoins du gouvernement parce qu'il n'y a pas les moyens pour nous donner les services en français. Je dis, s'il se trouve qu'il y a le besoin, ils vont mettre les moyens en place. Mais si on leur montre qu'il n'y a pas de besoin, ils ne mettront jamais les moyens.
J'ai une dernière question pour toi quand même, c'est est-ce que tu as beaucoup d'amis qu'on pourrait dire francophones de souche ici, là, tu sais, qui sont ici depuis plusieurs générations, ou t'as plus d'amis francophones nouveaux arrivants?
Je vais dire, j'ai beaucoup d'amis francophones nouveaux arrivants parce que le milieu dans lequel j'évolue, ça ne me permet pas d'être vraiment beaucoup avec les francophones de souche, donc des francophones qui sont nés ici. Je suis arrivée ici très vite, je suis repartie à l'école en anglais, donc je ne suis pas en contact avec les francophones de souche. Les quelques amis de francophones de souche que j'ai, c'est de par mes enfants. Parce que bon, comme ils vont dans une école francophone, ça fait que les parents des amis, généralement, sont des francophones. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, donc voilà le cercle mm-hmm. où je vais trouver des francophones de souche. Mais ailleurs, j'ai dit, ce que je fais, par exemple, ne me permet pas de rencontrer. Mm-hmm. Parce que les francophones de souche, ils n'y sont pas. Ils ont mm-hmm. abandonné ça aux anglophones. Ils se sont retirés. Donc, ça fait que je n'ai pas beaucoup de contacts avec, en dehors des amis, des parents, des amis de mes enfants.
Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'ils fassent pour être plus proche de vous, que vous connaissiez mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive?
Non, je vais dire, je crois que ce n'est pas eux qui devraient faire quelque chose. Parce que quand je suis arrivée, mon parcours un peu, ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour... J'ai dit, c'est moi qui devrais aller vers eux. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps.
De temps, c'est ça.
De libre pour...
Mais les occasions, il y en aurait, tu penses. C'est pas les occasions qui manquent, c'est juste des fois le temps qui manque.
Mais je crois qu'une fois que j'ai fini mon parcours du barreau, là, parce que je ne compte pas repartir à l'école de sitôt.
C'est ça, tu vas avoir plus de temps.
Et donc, j'aurai plus de temps.
Puis, il y a la nation métisse aussi. Tu connais un peu?
J'ai connu, oui, j'ai une amie qui est métisse, mm-hmm. qui a vécu aussi tout ce qu'on... Mais après, j'ai pas beaucoup de... Parce qu'une fois, elle m'a même invitée à venir. Elle travaillait même dans le Métis Center, Federation of Métis of Manitoba.
Okay.
Elle m'avait invitée de venir là-bas. Mais honnêtement, depuis que je suis arrivée ici, je fréquente full-time, je travaille part-time. Mm-hmm, ou alors, je travaille part-time, je fréquente full-time. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un parcours infernal. Et j'ai des enfants dont je dois prendre soin.
C'est ça.
Ils doivent faire leurs activités comme
les
autres
enfants.
Ah non,
je crois que ta cour est pleine, là. Tout à fait.
Mais c'est...
Mais tu es ici pour longtemps et tout ça va arriver parce que tu es une femme extraordinaire, curieuse.
Dans un mois, j'aurai fermé la page. Je vais reprendre ma vie en main.
Oui, des petites vacances avant, peut-être?
ça, je pense pas, parce qu'il y a une compagnie qui me courtise là, et eux, ils sont un peu pressés. J'aurais vraiment aimé avoir des petites vacances, parce que c'est toujours bien pour le moral. Mais bon, je sais pas si ce sera possible.
Eh bien, je te souhaite, Rufine, vraiment d'accomplir tous tes rêves, merci. Parce que tu vas vraiment aider beaucoup de gens, et puis longue vie,
merci
vraiment.
Beaucoup. Et pareillement.
Merci.
Merci.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.